Chapitre 4 Où Chantecoq entre en campagne. Dans un très grand bureau du style empire, aux meubles en acajou et aux incrustations de cuivre, aux tentures lourdes et sombres, deux hommes étaient réunis. L'un assis devant une table de travail dont les pieds dorés représentaient des chimères, un homme d'une soixantaine d'années, à la barbe grise, taillé en éventail tel qu'elle portait avant la guerre, les riches agents de change, les grands financiers et les puissants industriels. Une grande et réelle douleur était empreinte sur son visage, et il était aisé de deviner qu'une subtile et terrible catastrophe s'était abattue sur lui, sans pourtant faire fléchir ses larges épaules et atténuer l'éclat de son regard. Ce personnage n'était autre que M. Auguste Barrois, père et beau-père de Jacques et de Marie-Louise. S'adressant à Chantecoq qui était assis en face de lui, de l'autre côté de la table, il lui disait: « Monsieur, je ne saurais vous exprimer à quel point je vous suis reconnaissant de n'avoir pas hésité un seul instant à me mettre au courant de la vérité, si épouvantable soit-elle. La prétendue culpabilité de ma belle-fille m'avait en effet à la fois stupéfié et bouleversé. J'avais eu, je puis vous le dire, le pressentiment qu'il y avait dans toute cette histoire des dessous mystérieux, tels que mon fils trouverait très bien avoir été l'objet, ou plutôt la victime, d'une lamentable erreur. Vous venez de me démontrer que je ne me trompais pas en raisonnant ainsi. Je vous en remercie infiniment. Maintenant, pour moi, ce n'est pas une coupable, c'est une innocente que mon fils va pleurer. Certes, ce n'est qu'une bien faible consolation à l'atroce douleur qui l'étreint, mais au moins lui sera-t-il permis de se rendre sur la tombe de la disparue pour lui verser toutes les larmes qu'il lui doit, et pourra-t-il garder en lui le fervent et pur souvenir de celle qui, après avoir été indignement calomniée, aura été lâchement assassinée. Chantecoq reprenait: Monsieur Barrois, en agissant ainsi, je n'ai fait que mon devoir. L'industriel émettait: Alors, selon vous, le meurtrier de Marie-Louise est bien, n'est-ce pas, le bandit invisible qu'on appelle le tueur de femmes? Chantecoq déclarait: Non, il n'y aura aucune hésitation à ce sujet. Il est extraordinaire, reprenait M. Barrois, que la police n'ait pas réussi encore à percer son identité, à mettre fin à la série de ses sinistres exploits. Oh, il ne faut pas trop accuser la police, déclarait le roi des détectives. Cette affaire est tellement compliquée, elle intéresse l'honneur de tant de familles, que la situation de ceux qu'on a lancés aux trousses de ce véritable vampire est extrêmement délicate. M. Barrois s'écriait: Et si je vous proposais, monsieur Chantecoq, de vous mettre à la recherche de l'assassin de ma pauvre belle-fille, que me répondriez-vous? Mais je vous répondrai, monsieur, ripostait sans la moindre hésitation le célèbre limier. Oui, je vous répondrai que je suis déjà parti en chasse contre lui, et cela de ma propre initiative, car j'estime qu'il est temps d'en finir avec ce gredin ou ce fou. Et si je vous ai téléphoné pour vous demander un rendez-vous, ce n'était pas seulement pour vous apporter la preuve de l'innocence de Madame Jacques Barrois, mais aussi pour vous demander quelques renseignements qui peuvent m'être très utiles au cours de l'enquête que je viens de commencer. Le métallurgiste répliquait: Oh, vous pouvez m'interroger, monsieur Chantecoq. Je vous dirai tout ce que je sais. Oh, c'est-à-dire peu de choses, mais trop heureux si je puis vous être utile. Avec cette netteté qui le caractérisait, l'habile limier reprenait: Ce matin, monsieur Maurice Barrois, votre fils, m'a raconté que son frère avait reçu plusieurs lettres anonymes lui affirmant que sa femme était la maîtresse d'un nommé Gomez Stado. Oui, le fait est exact, reconnaissait monsieur Barrois. Et pourriez-vous me dire, insistait Chantecoq, si ces lettres sont entre les mains de monsieur votre fils? Non, répliquait monsieur Barrois. Chantecoq esquissa une moue significative. Monsieur Barrois s'empressa de répondre. Oh, mais rassurez-vous, cher monsieur, ces lettres existent toujours. Mon fils me les avait communiquées afin que j'en prisse connaissance, et elles sont là, dans le tiroir de ma table. Serait-il indiscret, demanda le roi des détectives, de vous prier de m'en remettre une seule, et de me permettre de la conserver pendant 48 heures? Mais pas du tout, répondait le métallurgiste, qui ouvrit le tiroir de sa table, y prit plusieurs lettres, et les tendant à Chantecoq, lui dit oh, vous pouvez les lire toutes et choisir celle qui vous conviendra le mieux. Chantecoq s'empara des messages et en prit connaissance. Il y en avait 5 qui se suivaient jour par jour, observant une gradation perfide. Lisons par-dessus l'épaule du grand limier. Première lettre. Monsieur, j'ai l'honneur et le regret de vous prévenir que votre femme vous trompe. Un ami inconnu. Deuxième lettre. Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que votre femme vous trompe avec un jeune drôle nommé Gomez Tardo. Un ami sincère. Troisième lettre. J'ai l'honneur de vous informer que votre femme vous trompe avec un nommé Gomez Tardo et qu'elle lui a remis tout dernièrement une somme de 5 000 francs qu'il s'est empressé de dissiper au jeu. Quatrième lettre. J'ai l'honneur de vous informer que votre femme vous trompe avec un nommé Gomez Tardo et qu'elle lui a remis dernièrement de nouveau une somme de 5 000 francs qu'il s'est empressé de dissiper au jeu. J'ajouterai que le sieur Stardo, qui est un fief et coquin, menace Madame Barrois de vous faire parvenir certaines lettres qu'elle a eu l'imprudence de lui écrire si elle ne lui remet pas une somme de 10 000 francs. Quelqu'un qui vous veut du bien. Cinquième lettre. J'ai l'honneur de vous informer que votre femme vous trompe avec un Gomez Tardo et qu'elle lui a remis dernièrement, pour la troisième fois, une somme de 5 000 francs qu'il s'est empressé de dissiper au jeu. J'ajouterai que le sieur Fardeau, qui est un fief et coquin, menace Madame Barrois de vous remettre certaines lettres qu'elle a eu l'imprudence de lui écrire s'il ne lui remet pas une somme de 10 000 francs. Je tiens en outre à vous prévenir que, terrorisée par ces menaces, votre femme a donné rendez-vous demain matin chez elle à 9h30 à cet ignoble individu. Madame Barrois, sachant en effet que vous devez prendre le train vers 8 heures à destination de Lille. Quelqu'un qui ne veut pas que l'on bafoue votre honneur. Chantecoq, sa lecture terminée, reprenait. C'est infiniment curieux. Lorsqu'on est doué de quelques notions de graphologie et qu'on examine de près ces lettres, on s'aperçoit facilement qu'il y en a 2, la seconde et la dernière, qui ne sont pas de la même écriture. Alors, je vais donc vous demander, cher monsieur, si toutefois vous n'y voyez pas d'inconvénient, l'autorisation d'emporter toute cette répugnante correspondance. Ah, si j'ai bien compris vos intentions, reprenait le maître de forge, vous allez probablement chercher, grâce à ces 2 écritures différentes, à identifier les 2 personnes qui les ont tracées. Monsieur Barrois, répliquait Charles Coq sur un ton d'urbanité charmante, voulez-vous me permettre de vous rappeler que lorsque vous m'avez prié autrefois de vous rapporter les titres qui vous avaient été volés, la seule condition que j'ai mise à accepter cette mission, c'était que vous ne poseriez pas la moindre question au cours de mon enquête. Je m'en souviens, répondait le métallurgiste, et veuillez m'excuser si je ne me le suis pas rappelé plus tôt. Oh, monsieur Barrois, je vous comprends très bien. C'est à moi de vous demander pardon, de me montrer si intransigeant sur ce principe, qui est une des bases de mes actions policières. En effet, une question en appelle forcément une autre, et si on a le malheur de glisser sur cette pente, non seulement on perd un temps considérable en palabres inutiles, mais on risque fort de perdre le fil de ses idées et de s'aventurer sur de mauvaises routes. Mais c'est tout à fait bien raisonné, approuvait le père de Maurice et de Jacques. Apportez donc ces lettres, faites-en l'usage qui vous plaira et gardez-les tout le temps qui vous sera nécessaire. Bon, je dis 48 heures, répéta l'illustre limier. Je pourrais fort bien que je vous les rapportasse plus tôt. Inutile de vous dire, reprenait l'industriel, combien je suis de cœur avec vous. J'en suis persuadé, peut-être qu'au cours de cette enquête, aurai-je encore l'occasion de vous rencontrer et de vous demander de nouveaux renseignements. Mais je suis et serai toujours à votre entière disposition. Jean de Coq se levait, mais M. Barrois le retint d'un signe. Monsieur Chantecoq, dit-il, bien que je sois résolu, ainsi que vous me l'avez demandé, à ne plus vous poser de questions, je suis tout de même obligé de vous demander quelle doit être mon attitude vis-à-vis de mon fils Jacques. Faut-il lui laisser croire que sa femme est coupable ou faut-il au contraire lui révéler la vérité? Chantecoq réfléchit pendant quelques secondes, puis il lui dit « Il faut lui révéler la vérité, car cela serait vraiment une cruauté inutile que de lui marchander cette consolation, si faible soit-elle, et surtout de laisser porter atteinte plus longtemps à la mémoire d'une honnête femme. Mais il me vient une crainte, exprimait M. Barrois. Laquelle? C'est que mon fils se figure que nous avons inventé de toutes pièces une histoire afin de diminuer sa peine. C'est possible, en effet, admettait le policier privé. En ce cas, il serait préférable d'attendre que j'aie retrouvé ce Gomez Tardo, c'est-à-dire le frère de Madame Jacques Barrois. Ceci serait une preuve évidente que nous avons dit la vérité. Oui, mais comment le retrouver? Questionnait le métallurgiste. C'est mon affaire, répliquait Chanteur. Je suis là à présent vous déclarer que c'est une besogne des plus faciles. À peine avait-il prononcé ces mots que l'on frappait à la porte. C'était le valet de chambre de M. Barrois qui lui apportait une lettre sur un plateau. L'industriel s'empara du message et dit à Chantecoq « Vous permettez, monsieur ?»« Je vous en prie, répliquait le roi des détectives. » M. Barrois décacheta l'enveloppe. Elle contenait un papier plié en quatre qu'il développa. Et voici ce qu'il lut. « Monsieur, je suis le frère de Madame Jacques Barrois, dont j'apprends un instant la mort. Je puis à même de vous donner à ce sujet quelques éclaircissements qu'il est indispensable que vous connaissiez. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux. Vicomte Albert de Beaurevoir. » Sans dire un mot, M. Barrois passa à Chantecoq la lettre qu'il venait de lire. Le limier prit connaissance. Le métallurgiste fit « Qu'en pensez-vous ? » « C'est très intéressant !» déclarait Chantecoq. « Êtes-vous d'avis que le reçoive ce jeune homme ?»« Certes !»« Eh bien, je vais l'écouter. » « En ce cas, monsieur, formulait le policier privé, je vous demanderai la permission d'assister à cet entretien sans toutefois que le visiteur se doute de ma présence. » « Rien de plus facile, déclarait le père de Jacques. » Et se levant, il s'en fut soulever une tenture qui masquait une porte donnant dans un arrière-cabinet qui formait bibliothèque. Puis il dit à Chantecoq, vous n'aurez qu'à vous asseoir derrière ce rideau et écouter. Parfait, approuvait le détective, qui s'empara d'une chaise, la rapprocha de la tenture et s'y installa. Monsieur Barrois retourna dans son bureau et dit à son valet de chambre, faites entrer ce monsieur. L'industriel se réinstalla devant sa table, se demandant ce que ce jeune homme allait bien lui raconter. Quelques secondes après, le vicomte de Beaurevoir apparaissait et Barrois se leva. D'un geste assez distant et d'un air qui n'était pas précisément empreint de bienveillance, l'industriel l'invita à prendre place sur le siège que Chantecoq venait de quitter. Le frère de Marie-Louise, qui sous ses allures inquiétantes d'élégant dévoyé, conservait une certaine distinction naturelle qui le rendait plus redoutable encore, attaquait d'un ton que l'on sentait plus que sincèrement attristé, mais profondément douloureux. Monsieur, je tiens à vous remercier tout d'abord d'avoir consenti à me recevoir dès que je vous en ai prié. Au moment où je me disposais à vous apporter la preuve indiscutable que monsieur votre fils avait été victime d'une lamentable erreur, j'ai appris brutalement que ma sœur était morte subitement, dans la rue. Je n'ai pas besoin de vous dire combien j'en suis peiné. Marie-Louise avait agi envers moi avec tant d'affection, de bonté et de noblesse. Après m'avoir arraché à l'existence abominable que je menais et m'avoir fait entrer dans le bon chemin, elle venait de m'annoncer qu'elle avait trouvé pour moi une situation aussi honorable que lucrative. Et comme je l'embrassais dans tout l'élan de la reconnaissance et de ma tendresse fraternelle, mon beau-frère est entré subitement dans ce boudoir où nous nous trouvons. Alors, j'ai complètement perdu la tête. Je savais que notre fille, ainsi que vous et tous les vôtres, ignoraient mon existence. On me cachait tant on avait honte de moi, et on avait raison. N'étais-je pas misérable? Alors, au lieu de me nommer et de tout dire, je me suis enfui comme un malfaiteur, comme un lâche, provoquant entre ma sœur et votre fils un atroce malentendu qu'un seul mot de moi eût suffi à dissiper. Pris de remords, je revins sur mes pas. J'appris que M. Jacques Barois était parti de chez lui comme un fou furieux, et que Marie-Louise, dont il n'avait sans doute pas voulu écouter les explications, était sortie elle aussi sans dire où elle allait. Je décidai que je reviendrais vers l'heure du déjeuner. Personne n'était encore rentré. J'entendis dans la rue jusqu'à 1 heure, lorsque tout à coup une voiture s'arrêta devant l'hôtel particulier de votre fils. C'était Marie-Louise qu'on ramenait inanimée. J'interrogeai les personnes qui l'accompagnaient. Elles déclarèrent qu'elles l'avaient trouvée étendue, sans connaissance, sous les arcades de la rue de Rivoli. Elles ont trouvé son adresse dans son sac qu'elle tenait encore dans sa main crispée, et elles l'ont aussitôt transporté chez elle. Vite, on a envoyé chercher un médecin. On vous prévenait quelques instants après et vous accouriez. Vous ne m'avez pas vu. Je m'effaçais discrètement. Je ne suis même pas entré dans la maison. C'est quand je vous ai vu sortir une demi-heure après avec le docteur que j'ai deviné à votre figure bouleversée que ma pauvre sœur était morte. Je me suis informé, hélas, je ne m'étais pas trompé. Je me suis mis à la recherche de mon beau-frère. Je voulais tout lui dire et surtout lui demander pardon. Car c'est moi qui, involontairement, ai causé la mort de ma sœur, en créant par ma sottise une situation qui lui aura brisé le cœur. Je n'ai pas pu joindre votre fils, alors, monsieur, je suis venu vers vous. Et la voix étranglée de sanglots, le vicomte de Beauvoir murmura simplement: voilà. Visiblement ému, monsieur Barrois répliquait: monsieur, je n'ai ni à vous condamner, ni à vous absoudre. Je laisse à d'autres le soin d'apprécier le repentir tardif qui vous anime. Je ne puis que souhaiter une chose, c'est que la mort de votre malheureuse sœur achève de nous faire rentrer en vous-même et ne vous empêche pas de redevenir un honnête homme. Veuillez me laisser votre adresse, car je vous demanderai de renouveler vos déclarations à mon fils Jacques dès qu'il sera en état de vous entendre. Je suis prêt, monsieur, répliqua le vicomte de Beauvoir. Je demeure tout entier à votre disposition. J'habite 27 avenue Malakoff, téléphone Passy 6386. L'industriel prit note de cette adresse et, se levant, il indiqua ainsi à son interlocuteur que l'entretien était terminé. Le faux Gomez Sardo le comprit ainsi, car il se garda bien d'insister et, après s'être incliné devant M. Barrois, qui lui rendit son salut avec correction, il quitta le bureau. Le métallurgiste s'attendait à voir Chantecoq sortir de sa cachette. Mais le rideau demeurant obstinément immobile, l'industriel se leva et souleva la tenture. Chantecoq avait disparu. Sur la chaise qu'il avait occupée pendant l'entrevue de Barrois et du vicomte de Beauvoir, une carte-lettre non timbrée était déposée à l'adresse de M. Auguste Barrois. Celui-ci détacha le pointillé et ouvrit le message qui contenait ces simples mots. « Cher monsieur, excusez-moi de vous fausser compagnie, mais j'ai cru indispensable de me livrer immédiatement une enquête que je crois capable d'apporter d'utiles résultats. Un peu de patience et vous aurez bientôt de mes nouvelles. Tous mes sentiments les plus distingués. Chantecoq. » M. Barrois demeura un instant intrigué par cette missive à la signification plutôt énigmatique. Puis il se prit à murmurer. « Bon, je crois que Chantecoq est fort capable de découvrir l'assassin de ma belle-fille. Mais hélas, cela ne lui rendra pas la vie. » Chapitre 5. Où Chantecoq trouve que son flair est de taille à rivaliser victorieusement avec le diagnostic d'un médecin de l'état civil. Pour quelle raison subite Chantecoq avait-il joué ainsi la fille de l'air ? Lui seul eût pu nous le dire, mais comme nous savons qu'il détestait d'être interrogé, nous nous garderons bien de lui poser la question. Contentons-nous de le suivre et d'être les témoins passifs de ses faits et gestes qui, espérons-le, du moins attireront et retiendront l'attention de nos lectrices et de nos lecteurs. Après avoir quitté l'hôtel de M. Barrois, le roi des détectives était monté dans sa Talbot 6 cylindres qu'il avait laissé le long du trottoir, et promenant volant vers le volant, il s'était rendu au domicile particulier de M. et Mme Jacques Barrois. Ceux-ci habitaient un très joli hôtel particulier situé rue Rénoir. Chantecoq sonna à la porte. Une femme de chambre, l'air éploré, s'en vint lui ouvrir. Immédiatement, il déclara à la camériste, avec l'aplomb imperturbable qu'il caractérisait, « Je suis le commissaire de police et, comme Mme Barrois est morte sur la voie publique, je viens pour les constatations légales. » La jeune servante, très intimidée par le titre que Chantecoq s'était bénévolement octroyé, s'avança et dit « Monsieur le commissaire, donnez-vous la peine d'entrer. Je vais vous conduire auprès de cette pauvre madame. » Elle le fit pénétrer dans une chambre située au premier étage et où Madame Barrois gisait étendue sur le lit, toute blanche, parmi les quelques roses que l'on avait semées à la hâte autour d'elle. Sur le table de nuit, un Christ entre deux lumières, et c'était tout. La femme de chambre, voulant s'excuser du manque d'apparat, « Monsieur n'est pas encore entré, » fit-elle, « nous avons fait de notre mieux. » Sans paraître accorder la moindre importance à ces paroles, Chantecoq s'approcha de la morte et la considéra pendant un certain temps. Bientôt, une lueur étrange s'alluma dans son regard et, se retournant vers le camériste qui n'avait pas bougé de place, il lui dit « Est-ce que le médecin de l'état civil est venu constater le décès ?»« Oui, monsieur le commissaire. »« Il y a longtemps ?»« À peine 10 minutes. » Et qu'a-t-il dit ? Rien, il a seulement signé une feuille. Ah, le permis d'inhumer. Oui, c'est cela. Nous n'attendons plus que le retour de monsieur pour téléphoner aux pompes funèbres de venir. Bien, dit le faux commissaire, qui de nouveau se mit à contempler le cadavre de Marie-Louise. Sans prononcer un mot, il se retira, accompagné par la soubrette, jusqu'à la porte. Il remonta dans son auto, redescendit dans Paris, et après avoir suivi les quais jusqu'à la hauteur du pont des Saint-Pères, il tourna à droite, traversa le pont, longea la rive gauche jusqu'à la hauteur de la rue Bonaparte, et s'arrêta à la hauteur d'un vieil immeuble du XVIIIe siècle, dont les balcons en fer forgé rappelaient la magnificence désuète et effritée. Descendant de sa voiture, il s'engagea sous une porte cochère, puis il se dirigea vers l'escalier de pierre
qui avait conservé sa robe délicatement ouvragée et gravit ainsi deux étages. Il s'arrêta devant une porte sur laquelle était fixée une carte ainsi libellée « Professeur Pierre Courtil ». Il tira sur un cordon de sonnette effiloché. Un son fêlé retentit à l'intérieur de l'appartement. Puis je vis un bruit de savate que l'on traîne sur le plancher. La porte s'entrebâilla lentement avec précaution et laissa apparaître la tête classique et nettement caractéristique d'une vieille bonne à tout faire qui, une grosse paire de lunettes sur le nez et deux aiguilles à tricoter enfoncées dans les cheveux grisonnants et rebelles à toutes les coiffures, demanda en criant comme une sourde qu'elle était. Shadcock y avait compris instantanément qu'il avait affaire à une personne dite dure d'oreille, répliqua d'une voix claironnante « Qu'est-ce que vous désirez ? Je voudrais parler à monsieur le professeur Courtil. » La vieille bonne, déjà pleine de sympathie pour son interlocuteur, qui du premier coup se faisait aussi nettement entendre, répliqua « Oh, monsieur le professeur est absent, pas pour longtemps. Il est allé faire sa petite promenade habituelle au Luxembourg, mais il va pas tarder à rentrer, car il est réglé comme une pendule. » Sans donner à Chantecoq le temps de respirer, la servante, qui répondait au nom un peu spécial de scolastique, poursuivait avec amabilité. « Donnez-vous la peine d'entrer. Vous allez pouvoir attendre, monsieur le professeur, au salon, à moins que vous soyez trop pressé ou vous ayez une course à faire dans le quartier. » Le roi des détectives, qui, par ses manières affables, autant que par sa voix sonore et sa parfaite diction, avait achevé de faire la conquête scolastique, reprenait « Oh, j'ai tout mon temps !»« Alors, veuillez me suivre !» De l'antichambre dont les murs disparaissaient entièrement du plancher au plafond, sous les étagères chargées d'une double rangée de livres de tous les formats et de toutes les reliures, Shadcock passa dans une vaste pièce qui formait elle aussi une véritable bibliothèque dont chaque bouquin était soigneusement étiqueté. Sans doute l'avait-on dénommé salon parce qu'elle était meublée d'une grande table ronde aux pierres d'acajou massif et au marbre lourd, épais, puis de quelques fauteuils d'un Louis-Philippe très accusé et recouvert de tapisseries au ton passé, ouvrage d'une seule modestement laborieuse qui avait dû y conserver de nombreuses allées et venues, considérablement le moment où les yeux fatigués réclamaient une paire de lunettes. « Asseyez-vous, monsieur, » insistait aimablement la servante. « Que devrais-je annoncer à monsieur le professeur ?»« Monsieur Shadcock, » dit simplement le célèbre limier. « À ce nom !» La sourde eut un cri de surprise, et levant ses bras en l'air, elle martela. « Comment, c'est vous le grand policier ?»« Eh oui, c'est moi. »« Oh, par exemple !» s'exclamait Scolastique. « On ne serait jamais douté que vous étiez Shadcock. Je croyais même que vous n'aviez jamais existé et que toutes les histoires que les journaux racontaient sur vous n'étaient que des bobards inventés pour abuser les actes des lecteurs. Eh bien, vous vous trompiez, ma bonne dame, souriait le détective. Shadcock n'est pas un personnage fictif imaginé par les journalistes en mal de copie. Il est bel et bien vivant, le voici devant vous, en chair et en os, comme on dit au cinéma. Comme la vieille bonne, pétrifiée de stupéfaction, demeurait devant lui, les bras croisés ballants et bouche bée, le roi des détectives demanda « Pensez-vous que le professeur Courtil voudra bien me recevoir ?»« Oh, j'en suis sûr !» affirmait Scolastique. « Il a pour principe de recevoir tout le monde. Il en vient ici du monde, oh, et de toutes sortes. Tout à l'heure, vous verrez, il y aura du monde plein le salon, la salle à manger et l'antichambre. Des fois, il y en a même qui attendent sur le palier, dans l'escalier. C'est un si grand savant. Oh, s'il avait voulu, il y a longtemps qu'il serait riche et millionnaire, mais l'argent, il s'en moque. Il a quelques petites rentes qui lui suffisent pour vivre. Il n'a pas de besoin. La science, comme il le dit souvent, c'est son seul but, sa seule amour. Il y en a qui prétendent qu'il est piqué. Moi, je dis que c'est pas vrai. C'est un homme qui n'est pas comme les autres. Je le reconnais, mais tout simplement parce qu'il est meilleur et plus savant. Asseyez-vous donc, monsieur Shotcock. Excusez-moi de vous quitter, mais il faut que j'aille mettre un peu d'ordre dans le bureau de monsieur le professeur. Il y a des livres sur tous les sièges. Je me demande où tout à l'heure il fera asseoir ses clients. Ben, rassurez-vous, vous êtes arrivé le premier. Vous aurez reçu le premier. Ici, il n'y a pas de bras, pas de passe-droit. Je vous remercie, ma bonne dame. Oh, vous pouvez dire scolastique. Et scolastique s'en fut, se retourna avant de franchir le seuil, afin de contempler le fameux chatecoq qu'elle avait pris jusqu'alors si naïvement pour un héros imaginé par un romancier feuilletoniste. Enfin, elle disparut plus que si elle venait de se trouver en face d'un roi ou même d'un simple président de la République. Au lieu de s'asseoir, ainsi que l'on avait prié sa prévenante interlocutrice, le roi des détectives s'approcha de l'une des étagères, surchargée d'une double rangée de livres, et il se mit à inspecter les titres, qui exclusivement étaient ceux d'œuvres scientifiques. Profitons-en pour expliquer le plus brièvement possible ce qu'était ce professeur Courtil, qui est appelé d'ailleurs à jouer un rôle important dans cette histoire. Après de très brillantes études à la faculté de médecine de Paris, Pierre Courtil, qui était le fils d'un honorable médecin de quartier parisien, avait été interne des hôpitaux. Ses ambitions ne s'arrêtèrent pas là. Bientôt, il était reçu premier au concours de l'agrégation et nommé professeur de biologie à la faculté de Nancy. Là, il épousait une des plus jolies et des plus riches jeunes filles de la ville, qu'il avait conquise plus encore par sa haute valeur morale et sa grande culture que par ses avantages extérieurs qui ne dépassaient pas ce qu'on est convenu d'appeler une honorable moyenne. La dot considérable de sa femme lui permit de se livrer aux études vers lesquelles il se sentait tout particulièrement attiré et qui avaient pour base le rapport de la chimie et de la médecine. Sans nier l'utilité de certaines méthodes thérapeutiques et l'efficacité de certains remèdes, Pierre Courtil était de ceux qui considèrent que la médecine moderne, malgré les réels progrès accomplis, est loin de s'être débarrassé entièrement de cet empirisme qui a été pendant de si longs siècles, et encore trop souvent de nos jours, la base d'une science, dont le but ne devait pas être seulement de soigner, mais encore et surtout de guérir. Son grand principe était « Seule la vie peut prolonger la vie ». Partant de ce principe, le mystère de l'existence ne lui apparaissait plus comme une énigme indéchiffrable. Et dans une communication qu'il avait adressée, non pas à l'Académie de médecine, mais à l'Académie des sciences, il avait osé émettre cette proposition « Il n'y a pas d'infini, et seul l'insuffisant développement de l'intelligence humaine lui a fait concevoir qu'il n'y avait ni limite, ni commencement, ni fin. » Cette théorie avait provoqué non seulement dans les journaux spéciaux, mais aussi dans toute la presse mondiale, d'âpres et palpitantes controverses. Et du jour au lendemain, le petit professeur de la faculté de Nancy avait été célèbre. Cela ne plut guère au pontife de l'art médical, qui, ainsi que tous les autres grands Manitou, n'aime guère encourager les idées nouvelles et les tentatives hardies. On fit une guerre sourde et hypocrite aux novateurs. On employa contre lui des procédés tellement écœurants que malgré l'attachement qu'il portait à ses élèves et l'admiration qu'il avait inspirée à ces derniers, Il donna sa démission et s'en va s'installer à Paris, où il fonda un laboratoire dans lequel il put se livrer en toute indépendance à ses recherches. Il vécut ainsi dans l'isolement et dans le silence pendant plusieurs années, évitant avec soin de faire parler de lui et attendant patiemment son heure, c'est-à-dire celle où ses efforts étant couronnés de succès, il pourrait lancer à la tête de la science officielle la nouvelle d'une découverte sensationnelle entre toutes et destinée à bouleverser toutes les données de la science médicale, c'est-à-dire la prolongation de l'existence humaine non plus grâce à des médicaments d'une valeur plus ou moins heureuse et trop souvent nocive, mais d'un traitement nouveau basé sur la nature même de l'existence humaine et sur l'application à l'homme de toutes les ressources de ce qu'on est convenu d'appeler la vie animale, végétative et minérale. Ce grand savant, que la plupart de ses confrères voulaient faire passer pour un charlatan ou pour un fou, était en réalité un homme de génie dans toute l'acception du mot, et ce qui est plus beau encore, il était essentiellement désintéressé. D'ailleurs, le bonheur qu'il avait tant désiré, il le possédait dans toute son intégrité. Il avait près de lui une compagne qui ne se contentait pas de demeurer divinement belle, mais qui était encore douée d'une intelligence remarquable, d'une sensibilité profonde et d'une bonté qui semblait sans limite. Et puis, il pouvait travailler sans avoir le souci des nécessités et des contingences extérieures. Il poursuivait sa route dans l'atmosphère adorable d'une harmonie parfaite et uniquement préoccupé d'un idéal qu'il était convaincu d'atteindre. Car, sans être orgueilleux, il pouvait puiser en lui-même la certitude d'être vainqueur, et il fit en attendant l'heure, sans fiel et sans impatience. Cette heure allait sonner. Il était sur le point, en effet, de se dire « Cette fois, je puis parler, oh, je puis divulguer au monde entier mon secret, sans crainte d'erreur. Je puis tenir tête à toutes les critiques envieuses, à toutes les malhonnêtes, à toutes les attaques méchantes dont je vais être l'objet, car j'ai trouvé, oui, j'ai trouvé !» Lorsqu'un événement, aussi effroyable qu'inattendu, bouleversa son existence. Un soir, en rentrant chez lui, on lui annonça que sa femme, qu'il avait quittée le matin très bien portante, avait succombé subitement le soir vers 17 h, en rentrant de prendre le thé avec une amie. Ce décès fut attribué à une rupture d'anévrisme provoquée par une ulcération d'estomac que l'on croyait guérie. Le désespoir du professeur fut immense. Pendant plusieurs années, il disparut. Nul, même parmi ses rares intimes, ne parvint à découvrir sa retraite. On prétendit qu'il était allé s'enfermer à la trappe, lorsqu'un jour, très vieilli, complètement transformé, le visage imberbe, les traits amaigris et les yeux toujours illuminés par la flamme de son génie, il revint à Paris et s'installa rue Bonaparte, dans cet appartement que nous venons avec Chantecoq de visiter en partie. Alors il se remit à travailler. Bientôt on lui attribua des guérisons miraculeuses. On racontait même que, s'étant rendu à plusieurs reprises au chevet du moribond, il avait réussi non seulement à soigner l'éloigner d'eux la mort imminente, mais à leur faire contracter un nouveau bail avec l'existence. On l'avait surnommé le sorcier. Ses confrères, et non les moins illustres, commencèrent à s'inquiéter de ses succès, qui menaçait de se transformer bientôt en triomphe. Et comme il ne pouvait l'accuser d'exercer illégalement la médecine, ni de l'empêcher de se rendre auprès des malades qui le réclamaient, ils se contentèrent de le faire passer pour fou et de mettre en garde les familles contre ce maniaque dangereux dont les cures miraculeuses ne pouvaient être attribuées qu'à un heureux hasard ou au brusque sursaut de la nature. Le professeur Courtil ne daigna même pas répondre à ces insinuations perfides autant que mensongères. Chaque fois qu'on lui demandait son assistance, il l'accordait, mais uniquement aux pauvres gens, à ceux qui ne pouvaient pas payer, et principalement aux êtres dont l'existence était utile aux autres, accomplissant ainsi gratuitement une sorte de sacerdoce. Tel était l'homme qu'un chagrin, que l'expression de son visage révélait inconsolable, et dont la douleur avait fait une sorte de personnage mystérieux, vite auréolé d'une légende qui attribuait encore à son influence sur les petites gens. Pourquoi Shadcock s'était-il rendu auprès de lui? Eh bien, nous allons le savoir immédiatement. En effet, au bout d'une attente qui dura à peine 5 minutes, la porte du salon s'ouvrit, et le professeur Courtil, se dressant sur le seuil, disait d'une voix grave et bien timbrée au roi des détectives « Veuillez entrer, monsieur, et soyez le bienvenu. » D'un rapide coup d'œil, le limier examina le savant qu'il voyait pour la première fois. C'était un homme de haute stature, vêtu de noir, très émacié, à la bouche bien dessinée, au regard vibrant de lumière, au front large, élevé, dégarni, qu'entourait une couronne de cheveux grisonnants dont l'extrémité venait frotter le col de sa redingote. Chantecoq, à qui rien n'échappait, remarqua aussitôt qu'il avait des mains et des pieds d'une petitesse exagérée et que ses attaches étaient d'une finesse qu'eût envié bien des femmes. Il le suivit dans une pièce qui, ainsi que l'antichambre et le salon, et plus encore peut-être, était rempli de livres, dont quelques-uns gisaient par terre, et dont d'autres s'accumulaient sur une cheminée en piles tellement hardies et hautes que l'on se demandait comment elles ne finissaient pas par s'écrouler. Le maître indiqua un siège à Chantecoq et s'en fit s'asseoir devant une petite table en bois noir qui ressemblait à celle du notaire d'un chef-lieu de canton. Toujours de sa belle voix harmonieuse, le professeur Courtil reprit. « Monsieur Chantecoq, j'ai beaucoup entendu parler de vous, et je suis au courant de tous les services que vous avez rendus à la société. Je sais aussi que vous êtes un très honnête homme, et que vous honorez grandement une profession que d'autres ont trop souvent rendue méprisable. Je me doute que vous venez me demander un service. Bien, je suis tout disposé à vous donner satisfaction, si toutefois la chose est possible. Je ne vous cacherai pas qu'avant de vous connaître, vous m'aviez déjà été très sympathique. Et j'ajouterai que maintenant que je vous ai vu, vous l'êtes encore davantage. » Chantecoq, enchanté de l'accueil que lui réservait celui qu'on appelait le sorcier, répliquait aussitôt avec déférence. « Mon cher bête, oui, je suis très touché de l'accueil que vous voulez bien me réserver. Oui, je viens en effet vous demander un grand service. » Parlez, invitait M. Courtil. Oh, je vous écoute avec la plus grande attention. Le roi des détectives développa. Vous avez certainement entendu parler des méfaits de ce bandit mystérieux que l'on appelle le tueur de femmes. En effet, répondait Piquel savant. Oh, j'ai lu cela dans les journaux, et je vous avouerai, franchement, que je n'irais pas ajouter une très grande importance si, tout à l'heure, je n'avais pas été témoin d'une scène extrêmement pénible, et qui, oh, je ne vous cache pas, m'a vivement impressionné. Puis, ainsi que chaque jour, je me promenais sous les ombrages du Luxembourg, et j'admirais un tableau vraiment délicieux, composé d'une jeune mère extrêmement jolie, qui jouait au ballon avec deux babies de 6 et 7 ans, le frère et la sœur, qui se ressemblaient beaucoup et avaient tous les deux les mêmes yeux et les mêmes sourires que leur maman. Et tout à coup, un des petits, ayant maladroitement envoyé son ballon dans une plate-bande, sa maman, avec le manche de son ombrelle, s'apprêtait à le ramener dans l'allée lorsqu'elle s'écoula sur le sol. J'étais tout près d'elle, je me précipitais pour la relever. Elle était morte. Les gardiens s'approchèrent aussitôt et l'un d'eux me dit « Oh, c'est encore un crime de tueur de femme !» Et un autre ajouta « C'est la troisième que nous ramassons depuis 8 jours dans le jardin !» Et le professeur ajouta « Cher monsieur Shadcock, si vous êtes venu me demander des renseignements au sujet de cette affaire, en voici. Mais je m'empresserai d'ajouter que je suis dans l'incapacité absolue de vous en fournir d'autres. » « Oui, acquiesçait Shadcock, c'est entendu, mon cher maître, mais j'ai moi la conviction que vous pouvez m'aider beaucoup à découvrir ce misérable. « Comment cela ? Mais je vais vous le dire. Mais auparavant, puis-je vous demander en principe si je dois compter sur votre concours ?»« Oh, mais certainement !» répliquait le professeur Courtil sans la moindre hésitation. Croyez que je serais trop heureux de vous aider dans une œuvre d'assainissement social, et surtout si je puis vous apporter quelques lumières. Cependant, permettez-moi d'en douter, je ne suis qu'un savant, mais un très grand savant, ponctuait le limier. Oh, je vous en prie, cher monsieur Shadcock. Ce que je voulais vous dire, c'est que je n'ai jamais songé un seul instant à me mêler à des affaires policières, et je me demande comment un homme de science pure, intégral, tel que moi, peut être utile à celui que l'on a si justement surnommé le roi des détectives. « Mon cher maître, reprenait le limier avec un sourire plein de finesse, permettez-moi de vous dire qu'avec tous les respects que je vous dois, vous commettez là une légère erreur et, quand je dis une légère erreur, c'est pour ne point vous offusquer. À mon humble avis, elle est en effet considérable, cette erreur. J'estime que la science moderne, au contraire, est appelée à être une si précieuse collaboratrice, une auxiliaire si puissante de la police que bientôt, celle-ci ne pourra plus s'en passer. J'admets en effet, reprenait le savant, que toutes ces découvertes qui, de jour en jour, se multiplient avec une déconcertante rapidité, sont appelées évidemment à vous aider considérablement dans votre état si difficile. Oh, vous pouvez même dire, faisait observer Shadcock, que déjà, grâce à elle, nous avons pu remporter les victoires qui, il y a quelques années, nous eussent infailliblement échappé. Bon, je ne parle pas seulement de la merveilleuse invention de Bertillon, qui est aujourd'hui une des bases les plus importantes de notre système policier, ni de l'automobilisme, de la télégraphie, de la TSF, etc., etc. Mais je ne veux faire qu'une brève allusion au concours si remarquable, si dévoué, éclairé, que nous apportent nos médecins légistes. Donc je voudrais simplement m'arrêter avec vous sur un point qui me préoccupe d'une façon toute particulière et que, seul, étant donné vos magnifiques travaux, que j'ai suivis depuis longtemps déjà avec une grande admiration, vous pouvez m'aider à élucider de la façon la plus complète. « Alors, faisait le professeur Courtil, à vous au moins, vous ne me traitez pas de sorcier. Mais non, je vous considère au contraire comme un des plus grands cerveaux de l'humanité. » Et je vous le dis sans aucune espèce d'esprit de flatterie, car je déteste trop ces flagorneries pour en être un moi-même. Comme je ne crois pas au miracle, mais au prodige, je ne puis que m'incliner très bas devant ce que vous avez accompli et salue en vous le plus grand, le plus fervent, le plus fier méconnu de la science, la victime de la plus ignoble des cabales qu'ait enregistrée l'histoire de la médecine en France. » À ces mots, un pli d'amertume se dessina sur les lèvres du savant, et il fit en hochant tristement la tête « Oh, nul n'est jamais prophète en son pays !»« Mais je crois, scandait Shadcock, que maintenant nul n'est prophète nulle part. Car en France, aussi bien que parmi les autres nations, on se plaît à exalter les médiocrités au détriment des supériorités. » Oui, on vous permet d'avoir du talent à la condition qu'il serve les intérêts industriels, commerciaux, financiers, politiques et autres. mais ce que l'on ne veut pas voir s'élever. C'est le grand homme, celui qui est appelé tant par la valeur de ses idées que par l'énergie de son caractère, à imposer sa volonté aux autres, et atténuer, éteindre à demi, par la clarté fulgurante de son génie, le pauvre petit lumignon qui se contente, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, de jeter leur faible lueur dans la nuit. Oh, combien avez-vous raison, monsieur Chateaucoq, s'écria le professeur Courtil, qui semblait se refuser à l'émotion que les paroles du détective lui inspiraient. Se raidissant pour conserver à son visage l'impassibilité dont il semblait vouloir se faire un masque perpétuel, il ajouta « Mais forcément, de nos jours, on en arrive à être individualiste. Lorsqu'on est sans cœur, on devient un mufle. Et lorsqu'on garde sa sensibilité, on est ce que je suis, presque un martyr. » Chantecoq appuyait. « Mais ce qui ne vous empêche pas, maître, d'être l'un des plus grands philanthropes que l'on puisse saluer. » « Mais pourquoi me dites-vous cela ? Parce que je sais que, si vous refusez des sommes qui sont presque des fortunes pour soigner des riches, vous n'hésitez jamais à prodiguer vos lumières aux pauvres, aux malheureux qui font appel à vous. » Le savant soupirait. « Oh, si je pouvais les soulager, les sauver tous. Mais vous avez déjà obtenu de merveilleux résultats. On affirme même que vous ressuscitez les morts. » À ces mots, le professeur Courtil esquissa un sourire dans lequel il y avait à la fois un grave scepticisme et beaucoup de bonté. « Non, monsieur Chantecoq, ceux qui vous ont raconté cela, bon, je ne vous dirai pas qu'ils ont menti, car il est fort probable qu'ils étaient de bonne foi. Non, j'affirmerai seulement qu'ils se sont trompés. » J'ai quelquefois ramené à l'existence des gens que l'on croyait morts, mais qui n'étaient plongés que dans un état léthargique ou cataleptique. Il est certain que j'ai évité ainsi, malgré ce système d'inhumation précipitée, qui est de règle en France et ailleurs, que l'on enterre vivant des malheureux que, de très bonne foi, on croyait à tout jamais rayer du nombre des morts, mais vivant des humains. « Oui, en cela, j'en suis très fier. »« Mais comme l'on bien, je vous comprends !» s'écria Chantecoq. « Et si je suis aujourd'hui près de vous, c'est précisément pour vous demander de ramener à l'existence une femme que les siens croient morte et dont le médecin de l'état civil a constaté le décès. Oui, cette femme est riche. Mais rassurez-vous, elle mérite votre intérêt autant et plus que n'importe quelle indigente. En effet, elle est la victime du tueur de femmes. Or, ce que vous ignorez peut-être, mon cher maître, c'est que ce mystérieux bandit s'est toujours attaqué jusqu'ici à des femmes qui avaient trompé leur mari. Ah, voilà qui est étrange, souligna le savant. Oui, une enquête à laquelle je me suis livré m'en a donné la certitude. Or, cette femme dont je vous parle est entièrement innocente. J'en ai également la preuve et je puis vous la fournir sur le champ. Oh, c'est inutile, monsieur Chantecoq, je vous crois sur parole. Je suis très touché de votre confiance et je vous en prie, si avant de me donner votre réponse, vous estimez nécessaire que je vous apporte tous les renseignements possibles au sujet de cette jeune femme, je suis prêt à vous les donner. Donc je vous répète encore une fois que c'est inutile, mais êtes-vous bien sûr que cette femme soit vivante ? Absolument sûr, non, mais j'en ai l'intuition. Je ne saurais trop vous préciser comment cette conviction s'est installée en moi. C'est plutôt à la suite de beaucoup d'impressions successives et impondérables que de faits réels et indiscutables. Vous ne me connaissez pas encore bien, monsieur le professeur, mais sans vouloir me faire passer à vos yeux pour plus fort que je ne suis, permettez-moi cependant de vous affirmer, et tous ceux qui ont eu affaire à moi vous le confirmeront, que je suis doué d'un flair que je n'oserais pas qualifier d'infaillible, mais qui cependant m'a conduit maintes fois, et cela sans le secours d'aucun autre élément, sur le chemin de la vérité. Eh bien, mon cher maître, mon flair me dit que cette femme n'est pas morte. Mon flair me dit que le tueur de femmes s'est trompé dans la dose ou dans la nature du poison qu'il a fait absorber ou qu'il a inoculé à cette malheureuse. Et je viens vous demander de bien vouloir vous rendre auprès d'elle et avec moi pour vous assurer, s'il est possible, de la rendre à l'amour d'un mari qu'elle aime tendrement et qui, à l'heure présente, doit savoir lui aussi que sa compagne n'a pas cessé de lui rester fidèle. Avant de répondre à l'adjuration si éloquente et persuasive du grand limier, le professeur Courtil réfléchit pendant quelques instants. Chantecoq attendait impatiemment sa décision. Jamais encore, peut-être même lorsqu'il poursuivait le fameux Belphégor à travers les salles du Louvre, lorsqu'il cherchait à pénétrer le mystère du train bleu, lorsqu'il débrouillait l'énigme de la maison hantée, qu'il établissait l'innocence d'un jeune aviateur injustement accusé d'un crime abominable, lorsqu'il parvenait à arrêter le personnage aussi redoutable que Zapata et qu'il mettait fin à la série des sinistres exploits de l'ogre amoureux, etc., etc. Oui, jamais encore peut-être, il n'avait été plus désireux d'atteindre son but. Redoutant le caprice de cet homme qui ne pouvait être que paisiblement aigri par toutes les injustices qu'il avait eu à subir de la part de ses confrères et la mise en quarantaine qu'on avait imposée à son génie, il ruminait dans son cerveau les nouveaux arguments dont il pourrait se servir au cas où son interlocuteur se déroberait, lorsque celui-ci reprit de sa voix grave et naturellement douloureuse. Le nom de cette jeune femme, Madame Marie-Louise Barrois. Son âge, 23 ans. Brune ou blonde? Blonde. Sa taille? Bon, je ne pourrais vous la fixer qu'approximativement, car je ne l'ai vue que sur son lit funèbre. Elle m'est apparue assez grande. Pas moins d'1,70 m. Oui, c'est cela. Pas d'enfant, non. Pouvez-vous me fournir un renseignement, même approximatif, sur sa santé? Son beau-père m'a affirmé qu'elle n'avait toujours été excellente. Bien. Le professeur Courtil se renferma de nouveau dans un profond silence que le détective se garda bien de troubler. Au bout d'un instant, le savant appela d'une voix forte « Scolastique! Scolastique !» Une porte s'ouvrit, la servante apparut. Le professeur lui demanda « Y a-t-il beaucoup de monde à m'attendre ?» Scolastique répondit « Une vingtaine de personnes. On dirait qu'elles se sont toutes données le mot pour appliquer en même temps. » « Et puis, vous savez, c'est pas fini. » Tout à l'heure, je suis sûr qu'elles seront bien quarantaines, et c'est encore obligé de les laisser dans l'escalier, même que la concierge commence à se plaindre. » D'un geste décisif, le savant interrompit le flot oratoire qui commençait à s'échapper de la bouche de sa domestique, et sur un ton qui n'admettait pas de réplique, il fit « Dites à ces gens qu'ils reviennent tous ce soir vers 17 h. Pour l'instant, il est absolument impossible de les recevoir. Vous leur donnerez des numéros d'ordre afin d'éviter une bousculade et un passe-droit. » Mais monsieur le professeur, objectait Scolastique, ils vont être furieux. Ils sont capables de m'écharper. Oh non, je suis bien tranquille. Ils vous diront rien. Je sais que vous êtes d'ailleurs de taille à leur tenir tête. Avec un accent d'autorité péremptoire, il martela. Allez, faites ce que je vous dis, et qu'il ne soit plus question de rien. » La bonne à tout faire obtempéra. Lorsqu'il eut quitté la pièce, Chantecoq fit simplement « Alors, maître, vous acceptez ?»« Oui, j'accepte, » répliqua le professeur Courtil. « Oh, merci de tout cœur. Cher monsieur Shotcock, vous me témoignerez votre reconnaissance lorsque l'expérience aura réussi, car je ne réponds de rien. Eh bien moi, s'écria le détective plein d'optimisme, moi je suis sûr du succès. À la condition que cette jeune femme soit vivante, elle l'est, affirmait le limier avec un accent de conviction qui parut produire une très vive impression à son interlocuteur. Car celui-ci, se levant, lui dit « Bien, oui, m'attendre 5 minutes et je vous suis. » Le savant s'enfuit par une petite porte, laissant seul le policier privé, qui semblait enchanté du résultat de sa démarche. Il se disait « Mais si je ne me suis pas trompé, quelle joie pour moi non seulement de sauver cette malheureuse, mais de la rendre à son mari avec la preuve de son innocence. » Ah, ce sont vraiment les bons moments de notre métier que ceux où l'on peut faire ainsi le bien. 5 minutes après, ainsi qu'il avait annoncé, le savant revenait. Il tenait à la main un chapeau de feutre aux larges ailes, et il appela de nouveau d'une voix forte « Scholastique ! Scholastique !» La bonne à tout faire reparut, rouge, essoufflée. « Ils sont partis » annonça-t-elle à son maître. Mais ainsi que je prévoyais, ça n'a pas été tout seul. Qu'est-ce qu'il a fallu que je leur raconte? Bon, ben, ils ont tous dit qu'ils reviendraient ce soir. J'espère, monsieur le professeur, que vous serez là pour les recevoir. Sans ça, ils seraient capables de m'étrangler et de me couper en morceaux. Scolastique, reprenait le savant avec impassibilité sereine d'un personnage d'Anatole France, ne vous mettez pas un si martel en tête. J'ai promis d'être là à 17 heures et j'y serai. D'ici là, reprenez votre calme et songez aux apprêts d'un dîner que je désire simple, mais que je veux succulent. J'espère que monsieur le professeur sera content, ponctua la servante. Et maintenant, reprit le professeur Courtil en s'adressant à Shotcock, je suis à votre entière disposition. Tous deux quittèrent le cabinet de travail, traversèrent le salon et l'antichambre, franchirent le seuil et descendirent le vieil escalier. Une fois dans la rue, Shotcock, ouvrant lui-même la portière de sa talbot, dit à son compagnon « Montez donc, mon cher maître !»« Vous n'avez donc pas le chauffeur ?» interrogea le savant. « Non, non, je préfère conduire moi-même. » Dans Paris, c'est pourtant bien absorbant. Et justement, répliqua le roi des détectives, tandis que je pense à n'écraser aucun piéton et à me défendre contre toute fâcheuse rencontre, je ne songe pas à autre chose. Et cela me repose le cerveau de toutes les idées que me suggèrent les fonctions que j'exerce. C'est en quelque sorte un dérivatif. Tout en parlant, le grand limier avait saisi le volant et constatant que le professeur Courtil était confortablement installé sur les coussins arrière de sa conduite intérieure, il mit son moteur en marche et gagna aussitôt l'hôtel particulier de M. et Mme Jacques Barrois. Dans l'antichambre, ils se croisèrent avec le grand industriel qui, apercevant Shotcock, s'enfuit à lui la main tendue et lui dit « Je ne puis m'empêcher d'apprendre à mon fils que sa femme n'était pas coupable. Il vient d'avoir en ma présence une explication décisive avec son beau-frère. En ce moment, il prie auprès du lit funèbre, et je crois qu'il vaut mieux le laisser seul et ne pas interrompre ses larmes, qui le soulagent moralement et physiquement et transforment son atroce désespoir en un chagrin. » Qu'adoucit la pensée qu'il n'a rien à reprocher à celle qu'il a quittée pour toujours. Monsieur Barrois, reprenait Shotcock, vous n'ignorez point que je suis décidé à découvrir l'assassin de votre belle-fille. Oh, je le sais, et je ne puis que vous encourager dans cette voie. Tout en désignant Monsieur Barrois, père, le professeur Courtil, qui se tenait un peu à l'écart, le limier poursuivait. Mais dans ce but, et pour une autre raison que je ne puis pas vous divulguer encore, j'aurais besoin que vous me permettiez de demeurer seul pendant quelques instants avec mon ami et collaborateur que voici, dans la chambre mortuaire de madame votre belle-fille. Si cela n'était pas abusé de votre complaisance, je vous demanderai de vous éloigner. Pendant combien de temps? Oh, 10 minutes environ. Monsieur Barrois répliquait. Je vais m'efforcer de vous donner satisfaction. Et s'adressant à un valet de chambre, il fit. Faites entrer ces messieurs dans le salon. Tandis que le domestique s'exécutait, l'industriel pénétrait dans la chambre qui avait été transformée en une véritable chapelle ardente et au milieu de laquelle, sur un lit, Marie-Louise reposait parmi les fleurs. La lumière de nombreux cierges se reflétait sur son beau visage. En entendant et en reconnaissant son père, Jacques se leva et fit « Regardez-la, mon père, comme elle est belle. On dirait pas qu'elle est morte. On croirait plutôt qu'elle dort. » Et il ajouta en saisissant les bras de Monsieur Barrois « Je viens de lui dire combien je souffrais de l'avoir soupçonnée, méconnue. Père, croyez-vous que son âme n'a aucun entendu? Croyez-vous qu'elle m'aura accordé mon pardon ?» « Mais oui, mon cher enfant, répliquait M. Deroy. Allons, calme-toi. Ne reste pas là. Maurice vient d'arriver, il est ici. Il voudrait te voir, te parler de certaines décisions que nous pouvons prendre sans toi. Ensuite, tu pourras revenir près de ta pauvre femme. » Doucement, l'industriel entraînait son fils vers la porte. Jacques, d'une voix brisée, lui fit observer. « Mais va rester seule. »« Non, non, je vais veiller près d'elle. »« Maurice est en bas dans le studio. Allez, va le rejoindre. Va, va, mon petit. » Jacques obéit et s'enfuit d'un pas traînant, s'appuyant à la rampe, tout brisé par la douleur immense qui le torturait. Son père le laissa s'éloigner. Lorsqu'il eut acquis la certitude que Jacques avait rejoint son frère, il descendit à son tour l'escalier, s'enfuit au salon et dit à Chantecoq « Maintenant, venez avec moi !» Chantecoq et le professeur Courtil lui emboîtèrent le pas. Quelques instants après, ils pénétraient à leur tour dans la chambre mortuaire. Discrètement, le grand métallurgiste les laissa seuls en présence de la défunte et il demeura dans le couloir, attendant le résultat dans cette mystérieuse démarche. Le professeur Courtil s'approcha du corps et prenant dans sa poche une petite trousse, il en retira une glace carrée qu'il approcha des narines et de la bouche de Marie-Louise. Aucun souffle ne le ternit. Il ne manifesta aucun signe extérieur d'impression, favorable ou non, mais prenant dans une trousse un flacon qui semblait contenir de l'eau, il en versa quelques gouttes sur la glace qu'il essuya ensuite avec un morceau d'ouate. De nouveau, il approcha le miroir du visage de la morte. À la grande satisfaction de Chantecoq, qui suivait cette expérience avec un intérêt palpitant, un voile haut, d'abord extrêmement léger, puis suffisamment opaque, se répandit sur la glace, qui au bout de quelques secondes fut recouverte d'un véritable brouillard. Alors, simplement, à voix basse, le professeur dit « Mais vous aviez raison, monsieur Chantecoq. Cette jeune femme est vivante !»